Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de métamorphe avec le boucher et je sais en la disant que cette phrase peut avoir quelque chose de très étrange. S'agirait-il d'une pièce rare de bœuf, quelque part entre la bavette d'Aloyau et le cœur de Paleron, dont nous irions discuter avec un représentant de cette noble profession qui transforme les carcasses animales en viande détaillée? Mais non, bien sûr. Popopop ne s'est pas brutalement métamorphe. Osez, tiens, je vais vous donner un gros indice, en émission gastronomique, même si l'idée ne serait pas pour déplaire à Charline Roux. Un métamorphe n'est pas davantage un accessoire vestimentaire imperméable, comme dans Métamorphe, je sens qu'il va pleuvoir. Non, un métamorphe, c'est un être qui a la capacité de changer d'apparence physique. Exemple, la pieuvre ou les frères Bogdanov. Et le boucher, ce n'est pas la profession, mais le dessinateur, au patronyme rendu célèbre par son illustre prédécesseur au XVIIIe siècle, au style rococo, à la limite parfois du Siffredi d'ailleurs. Bref, nous parlons de Timothée Le Boucher, dessinateur prodige, auteur subtil, rendu célèbre par deux bandes dessinées encore dans toutes les mémoires, Ces jours qui disparaissent en 2017 et Le Patient en 2019. Deux pures merveilles, et comme pour bien confirmer qu'il n'y a jamais de 203, voici une nouvelle pépite intitulée 47 cordes, une histoire de métamorphe donc, et sans doute le nombre de celles que Timothée a à son arc. Tiens, tirons dessus pour voir ce que ça donne. Cette émission a pour titre Timothée Le Boucher, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, et pop, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Timothée Le Boucher.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop. Alors, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Vous doutiez que cette émission n'hésiterait pas une seconde à commencer par une blague carambar que vous devez entendre, j'imagine, depuis les cours de la maternelle, non?
Ouais, depuis mon enfance. D'ailleurs, je crois que je peux pas porter plus mal mon nom de famille parce que je suis végétarien.
Donc c'est pas vrai. Pas si... Totalement.
Oui.
Ah, d'accord. aucun rapport, aucune relation de cause à effet entre votre
non,
nom.
Non, peut-être j'ai un traumatisme lié à mon nom de famille depuis l'enfance, je sais pas.
Je parlais du dessinateur. Au patronyme rendu célèbre par le style rococo, hein, le célèbre peintre boucher, à la limite parfois du Siffredi, ajoutais-je, c'est-à-dire exactement à l'opposé du vôtre, qui est tout en épure. Quels sont les peintres et les dessinateurs qui vous ont particulièrement marqué?
Après, je crois qu'il y a quand même une dimension un peu rococo dans cet album, avec
oui,
la cantatrice qui était très fantasque.
Avec la cantatrice, ça, avec les scènes de la fête, oui, d'accord, ok. Non, mais enfin, votre style est d'une manière générale beaucoup plus épuré.
Oui, je pense que ça vient particulièrement du manga, où je me suis pas mal inspiré des codes graphiques qui sont qui iconisent beaucoup, qui simplifient énormément. Mm-hmm. Et c'est vraiment lié à l'envie de raconter une histoire et que le dessin soit un support de narration, particulièrement. Mm-hmm.
Et puisque vous portez un nom de peintre, est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont particulièrement tapé dans l'œil?
À peu près, enfin beaucoup de peintres, effectivement. Je crois que quand j'étais petit, j'avais une fascination pour Caravage et pour ses ombrages. Après, c'est un peu idiot parce que du coup, comme je mets pas beaucoup d'ombrage et que c'est beaucoup d'aplat, je sais pas si on sent beaucoup les influences de mon travail.
Mais bon, Timothée Le Boucher, votre style, il nous saute aux yeux dans les 380 pages de 47 cordes, et encore ne s'agit-il là que du premier volume. C'est un récit ambitieux, captivant, envoûtant, pourrait-on même dire, dont nous parlerons en détail avec Charline dans quelques instants. Mais avant ça, la coutume de l'émission veut que je démarre par un morceau qui me fait penser à notre invité. Bah aujourd'hui, je vous propose de commencer par une chanson, Babouchka. C'est un classique signé Kate Bush, et bien sûr.
She wanted to take it first.
Babouchka, 4 bouches et spéciale dédicace à notre invité aujourd'hui, Timothée Le Boucher. Timothée, avant de parler de votre BD 47 cordes, parlons un peu de vous. En introduction, je parlais de Ces jours qui disparaissent que vous avez publié en 2017 et Le patient en 2019. Mais cette première BD, nous avons failli ne jamais la connaître et vous avez failli ne jamais être assis ici. Je m'explique. Les jours qui disparaissent, c'est l'histoire d'un personnage acrobate qui connaît des troubles de la personnalité. Cette idée, vous l'avez eue en sortant des Beaux-Arts d'Angoulême, mais vous hésitiez alors entre continuer la bande dessinée ou chercher un métier plus rémunérateur.
Oui, c'est vraiment là où est venue l'idée de l'histoire. En fait, j'avais cette hésitation. J'avais déjà fait 2 albums avant, mais c'était pendant le cadre de des études et c'était pas forcément... J'étais pas encore lâché dans la nature après l'école. Et cette question de choisir un métier pragmatique ou un métier plutôt artistique, parce que la bande dessinée, on sait que c'est un métier...
Aléatoire,
où c'est difficile d'en vivre et tout ça. Et effectivement, c'était des vraies questions que j'avais et ça a nourri du coup le scénario de Ces jours qui disparaissent.
Vous auriez fait quoi ?
Après c'était toujours dans le domaine artistique, mais je me demandais si je pouvais pas faire du travail de graphisme ou des choses de l'illustration aussi pour des magazines ou ce genre de choses. Ouais.
Entre temps vous avez vendu des brouettes de BD, je crois que le dernier Le patient est arrivé à 60 000 exemplaires.
En fait Ces jours qui disparaissent c'est 85 000 à peu près.
C'est des gros scores. Ouais. Hein, bon. Et en faisant le métier dont vous rêviez, aucun regret donc de ne pas être parti à la découverte du monde merveilleux des fusions-acquisitions, par exemple, tiens, si on parle de métier pragmatique.
Non, finalement, non. Aucun regret, je pense. J'ai bien choisi, j'imagine.
À cette époque, il y a une dizaine d'années, puisque je rappelle que vous avez seulement 33 ans, vous parliez d'une vraie méfiance vis-à-vis des disciplines artistiques. On ne prenait pas au sérieux la BD. Il y a encore une dizaine d'années, hein, on disait que ce n'était pas un vrai métier. Vous trouvez que la BD aujourd'hui souffre encore de ce genre de préjugés ou les choses se sont arrangées ?
Je pense qu'elle souffre encore de ce genre de préjugés, mais effectivement, même au sein de mon école, donc c'était les Beaux-Arts d'Angoulême, on avait donc c'était une école des Beaux-Arts traditionnels avec tous les types de cours, donc volume, performance ou ce genre de choses, mais même la bande dessinée pouvait mal être considérée par des profs de l'école, alors que c'était une des sections les plus attrayantes aussi, enfin parmi les plus attrayantes de l'école. Et je crois que ça a quand même changé depuis quelques années. Il y a eu des nouveaux professeurs qui sont arrivés et même au sein de l'école maintenant je pense que c'est quand même plus accepté et même la bande dessinée dans les médias et bah comme à Pop-Pop justement on en entend de plus en plus parler et du coup il y a un changement de statut mais c'est encore jeune donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de préjugés sur ce médium.
Timothée, vous parliez tout à l'heure des mangas et de l'inspiration que vous avez pu puiser dans les codes du manga, mais si on devait définir le Boucher's touch, ce serait quoi ?
Je sais pas du tout. Je pense que moi je suis un lecteur de bande dessinée tardif où en fait j'ai plutôt découvert avec le manga puis après j'ai lu énormément et un de mes soucis principaux c'est que la bande dessinée soit le plus lisible possible parce qu'en fait la complexité doit plutôt venir du récit en lui-même plutôt que de sa simple lecture et je pense que la plupart de mon travail est conditionné dans cette idée-là et ça conditionne le graphisme qui est lisible aussi qui accompagne le lecteur où toute la couleur accompagne aussi le lecteur et donne du sens à la narration et je pense que c'est peut-être une des pierres angulaires de mon travail peut-être.
Timothée Le Boucher, je sais que vous êtes très sensible au retour de vos lecteurs, des conseils qui vous permettent de vous améliorer, dites-vous, entre chaque album. Comment votre style a-t-il évolué, selon vous, entre Skins Party en 2011 et 47 cordes aujourd'hui ? Et à quel genre de remarques êtes-vous particulièrement sensible ?
Je pense qu'il y a toujours des défauts principaux qu'on peut repérer dans un album. Et c'est vrai que, par exemple, Skins Party, c'était la caractérisation des personnages qui était un peu cliché. Et du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de comment utiliser quand même des figures de personnages qui sont identifiables et reconnaissables, mais tout en leur créant une forme de complexité dans leur écriture. Et je pense qu'après Skins Party, j'ai fait attention à l'écriture des personnages. Les vestiaires, je pense que j'ai fait attention à donc mon deuxième album, à la fin et au dessin aussi. Et après Ces jours qui disparaissent, pareil, j'ai essayé d'améliorer le dessin, j'essaye de l'améliorer à chaque fois, tout en prenant compte... des différents objectifs de l'album, par exemple 47 cordes. Comme il y a une démultiplication des personnages, j'ai vraiment essayé de faire attention à ce qu'ils soient tous identifiables, reconnaissables, qu'ils aient tous une personnalité plus ou moins identifiable. Et du coup, chaque album a un peu des nouveaux défis comme ça.
petit, quand vous étiez petit, hein, vous aviez une fascination assez bizarre parce que vous dessiniez des gens en squelette mais avec des cheveux et habillés. Et vous dessiniez toute votre classe de cette manière-là. Vous avez gardé des amis de cette époque-là ?
Bah oui, sur Facebook là. Mais effectivement, je crois que je suis né un peu dans une période où il y avait beaucoup, j'aimais beaucoup l'horreur dans les dessins animés. Après, il y a eu les contes de la crypte, chair de poule ou ce genre de choses, et c'est des choses qui me fascinaient. Et très tôt, je me souviens de petits théâtres que je faisais un peu livre pop-up où par exemple on tirait des tiroirs et il y avait des gens en squelette dedans. Je sais pas pourquoi j'avais une fascination comme ça pour je pense que c'était une iconisation de
pour le morbide.
Pour le morbide,
ouais. Ouais. Non, mais je comprends très bien ça. Alors, cette touche, le boucher, enfin celle de 2021, nous allons en parler avec votre nouvelle BD 47 cordes, première partie, et avec Charline Roux, juste après, un peu de musique. Je me suis engagé ici même hier à jouer la recommandation de Pénélope Bagieux, une autre dessinatrice qui était à votre place. Il y a tout juste 24 heures, ce morceau, c'est Madonna, signé de la jeune chanteuse Lindsay Jordan avec son projet Snail Mail, et je vous propose de l'écouter tout de suite. Oui, parce que je tiens toujours mes promesses, moi.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Charline Roux qui vient de faire son entrée avec un magnifique tablier sur lequel on peut lire « Suivez le bœuf ». C'est un hommage à notre invité Timothée Le Boucher, je suppose.
Vous pouvez arrêter de dire
vous avez lu 47 cordes, première partie, la nouvelle BD de Timothée Le Boucher. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, vous qui êtes plutôt végétarienne aussi.
J'ai le droit d'être dithyrambique, c'est pas souvent, c'est absolument formidable. Tu finiras bien par m'appartenir... Pardon, je vais le refaire du coup. Tu finiras bien par m'appartenir, ma jolie proie, telle est la sentence prononcée page 30 par un jeune homme blond qu'on a vu dans le prologue du livre passé physiquement de Sirène Pin-Up Rousse à randonneuse, à étudiante, à jolie cycliste, toute s'adressant à Ambroise, le héros simplement venu à la plage pour se baigner, pour dessiner. 30 pages denses qui montrent rapidement un drôle d'étau se resserrer autour du héros, objet de toute la convoitise, puisqu'il s'agit d'un métamorphe. Un prologue qui nous fait nous demander si on est dans un ouvrage fantastique ou un thriller psychologique hyper sophistiqué. De quel côté votre cœur balance, Timothée Le Boucher ?
Dans le fantastique, parce que c'est vraiment un personnage surnaturel qui évolue dans un contexte plutôt réaliste. Après, effectivement, la psychologie, c'est toujours un travail sur les personnages qui m'intéressent. Donc je pense que c'est assez naturel dans mon écriture de m'intéresser particulièrement aux personnages. Donc je dirais entre les deux peut-être.
Et parmi les multiples identités du métamorphe, une cantatrice fantasque qui propose au héros musicien un drôle de marché fait de défis et d'asservissements hein, pour gagner une harpe. On voit se nouer une relation plutôt toxique entre les deux. Est-ce qu'on doit avoir dans 47 cordes aussi une métaphore sur l'emprise, qu'elle soit amoureuse ou non ?
Oui, clairement. L'un des axes que j'avais choisi, c'est comment, si un stalker avait tous les pouvoirs, qu'est-ce qui se passerait ? Et du coup, c'est effectivement ce qui se passe avec le personnage de la métamorphe qui, comme une pieuvre, du coup, étend son emprise autour de la vie d'Ambroise. Et du coup, potentiellement, on peut le détruire assez facilement.
Métamorphe, métaphore, oui, vous êtes bien sur France Inter. 47 défis, un seul échec et l'instrument lui échappe. Ça, c'est le pitch de 47 cordes et c'est édité chez Glénat. L'idée, vous l'avez eue après la sortie de votre BD « Ces jours qui disparaissent », précisément pendant la création d'une autre BD, la BD suivante, « Le patient », ce qui nous donne l'impression que votre cerveau est en permanente ébullition, Timothée, et que vous aimez, en tous les cas, comme le prouve avec Virtuosité 47 cordes, les histoires qui s'entrelacent.
Oui, oui.
Comment vous y retrouvez dans tout ce...
En fait, je crois que naturellement, mon petit, j'ai commencé à développer des histoires et de me faire des histoires. En fait, en voyant des films, je me dis, ah, par exemple, cette fin, je l'aime pas trop. Moi, j'aurais plutôt fait ça. Et du coup, ça amène vers des idées. Et c'est une espèce de veille constante comme ça. Sauf qu'avant, je notais jamais ces idées-là et je les perdais. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu bête parce que c'est quand même mon travail. Et maintenant, je me suis mis à tout noter. Et du coup, j'ai plein de scénarios qui attendent comme ça d'être développés. Mais du coup, pour 47 cordes, c'était vraiment genre l'origine, elle est un peu marrante. C'était ma coloc qui était sur Tinder et qui passait des garçons comme ça et
qui swipait.
Oui, qui swipait, c'est ça. Et genre, il y en a qui lui correspondaient plutôt bien, mais à cause du physique du nez qui était un peu de travers ou du fait qu'il soit trop petit, ben en fait, elle les voulait pas. Et je me suis dit, mais ça se trouve, elle aurait pu vivre une relation vraiment géniale avec cette personne. Mais juste le physique ne correspondait pas et c'est là où j'ai commencé à imaginer un personnage qui change de forme pour pouvoir séduire une personne.
Mais là par exemple au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez alors non pas au tome 2 qui est déjà en cours de réalisation mais à votre prochaine BD, celle d'après ?
En fait, j'ai tendance à être un peu en dilettante et j'aime bien. J'ai des passions pour des histoires pendant un certain temps qui, au bout d'un moment, me lassent un peu et du coup, je passe à une autre histoire. Ouais. Et en fait, je suis incapable de dire ce qui me passionnera à la fin du tome 2, mais j'ai déjà plein d'histoires en préparation qui me plaisent, donc ça sera la surprise au moment de la sortie.
Un personnage métamorphe, ça implique de nombreuses identités à créer, qu'elles soient physiques ou psychologiques, petit ami potentiel, copain d'escalade, cantatrice. Comment est-ce que vous les avez trouvées, Timothée Le Boucher, et comment avez-vous établi un lien entre toutes pour les garder immédiatement identifiables ?
En fait, je pense que c'était un des principaux défis de l'album, c'était d'avoir autant de personnages, mais qu'on puisse les reconnaître facilement. C'est pour ça que, du coup, la couleur aide beaucoup, l'iconisation des personnages qui sont thématisés de manière différente permet de les reconnaître et de les rendre identifiables. Après, c'est vrai que je pense qu'au début je dessine tous les personnages un peu côte à côte et j'équilibre un peu leur design pour qu'ils soient si certains se reconnaissent trop, et ben je change le nez, la coupe de cheveux,
quelque chose dans les yeux.
Ouais, on m'a dit que tous mes personnages avaient l'air sournois, alors c'est évolution. Dans le tome 2, je vais faire attention à faire des personnages aux yeux plus variés.
Et alors je vends tout de suite la carte Flaubert, Madame Bovary c'est lui, mais dans 47 cordes, la métamorphe c'est vous. En fait, elle crée des personnages, elle les met en scène, elle les anime.
Oui, c'est un peu dans... Ça, j'ai découvert ça dans l'écriture surtout, où en fait, ça me permettait d'aborder via la métamorphe ce qu'un auteur de bande dessinée crée. C'est-à-dire que la métamorphe, comme un auteur de bande dessinée, crée des personnages, des gestuels, des phrasés ou ce genre de choses. Et en fait, quand on lit une bande dessinée, tous les personnages ont été écrits par l'auteur, mais on a l'impression de voir des personnages multiples. Et du coup, il y a vraiment un parallèle qui est assez amusant à traiter entre la métamorphe et l'auteur de bande dessinée, justement.
Je reviens justement à ce que vous disiez il y a quelques instants, parce que ça me passionne. Dans cette première partie de 47 cordes, choisissez comme personnage un métamorphe, c'est-à-dire, on le répète, hein, un être capable de modifier son apparence physique, puisque vous dites que lorsque deux personnes, c'est ce que vous racontiez il y a quelques instants, lorsque deux personnes se rencontrent, si l'attirance physique n'est pas mutuelle, la relation s'interrompt. Et je vous ferai grâce du « oui, oui, mais la beauté est intérieure » et tout ça. Parce que si un personnage avait le pouvoir de modeler son corps différemment, que se passerait-il ? C'est ça, en fait, qui vous a déclenché ?
Oui, c'était vraiment l'élément déclencheur de l'histoire. Et après, forcément, dans le développement, au début, quand j'ai eu que cette idée de scénario, je me suis demandé, moi, par exemple, à la place, avec ce pouvoir, quel est mon potentiel, quel serait le potentiel et qu'est-ce que je pourrais faire? Et si des personnes étaient plus mal intentionnées, que feraient ces personnes-là? Et je pense que c'est venu comme ça, ça s'est développé, et on trouve plein d'idées et de trucs plus ou moins intéressants. Après, le risque, c'est d'avoir trop de choses à raconter. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de vraiment délimiter son pouvoir avec des règles précises que moi, je me suis fixé en amont et qu'on peut ressentir un peu dans l'album, mais qui vont être plutôt affinées, décrites de manière plus directe dans le tome 2, en tout cas.
Mais vous, Timothée Leboucher, si vous aviez le pouvoir, la capacité de prendre une autre apparence, qui choisiriez-vous ? Un vampire ? Un loup-garou ? Garou ?
Plutôt vampire, peut-être. Ouais. Mais après, il y a un peu des parallèles entre la figure du vampire et la figure du métamorphe, où il y a un peu une espèce de séduction constante, hein. Ce genre de choses. Et je pense que c'est comme une figure de l'horreur, mais du coup, dans un récit où l'horreur n'est pas très présente, finalement.
Et qui auriez-vous envie de séduire ?
Ah, ça, je sais pas du tout. Je me suis pas trop posé la question.
Un autre vampire.
Obligé de le dire, oui.
Ça aide en termes de temps. De toutes les identités de la métamorphe, ce n'est pas la plus jolie, et je mets d'énormes guillemets, à la plus jolie qu'il s'attache, mais à la plus puissante. Hasard ou coïncidence ?
Ouais, d'ailleurs, c'est le personnage de la cantatrice, ouais. Et il y a eu beaucoup de...
Très impressionnante.
Dans les retours que j'ai eus, je suis un peu étonné parce qu'il y a eu beaucoup de grossophobie sur ce personnage-là.
Elle est magnifique.
Oui, moi j'adore ce personnage. Ouais. Et effectivement, en fait, je pense qu'au début, la métamorphe essaye de prendre des archétypes physiques.
Absolument,
pour,
ouais,
séduire Ambroise. Et au final, la personne qui le séduit le plus, en fait, c'est le personnage de la cantatrice. Et même la métamorphe est touchée parce que la cantatrice, elle ne l'a pas créée pour Ambroise, elle l'a créée. C'est un vrai personnage qu'elle a créé avant, mais pour une espèce de statut officiel comme ça. Et du coup, il y a tout un travail autour de cette relation entre ces deux personnages.
Est-ce que nous sommes nous-mêmes des métamorphes ?
Bah après, on se transforme petit à petit tout le temps.
M'en parlez pas.
Moi non, je ne bouge pas. Mais sur un monolithe.
On se dégrade.
Oui, on va dans un sens, quoi, lentement.
Et Ambroise, votre héros, est une proie, mais une proie assez complexe. Hein. Lui aussi cache son lot de secrets. Il n'est pas d'emblée particulièrement sympathique, ni très lisible, sauf dans ses carnets auxquels vous nous donnez accès. Avec lui aussi, est-ce que vous interrogez la notion d'identité ?
Oui, en fait, Ambroise est très particulier comme personnage parce qu'il est il a beaucoup de peurs sociales qui le rendent froid et très réticent à l'idée de rencontrer des gens. Il y a tout un travail psychologique autour de sa personnalité dans l'album, et effectivement, j'avais vraiment peur du manque d'empathie pour ce personnage. Même si effectivement, en fait, en tout cas dans le tome 1, il y a effectivement un manque d'empathie certain qu'on pourrait avoir pour lui, mais effectivement, via des carnets qu'il dessine, en fait, comme des journaux intimes, ça permet de rentrer un peu plus dans sa personnalité, une facette de sa personnalité en tout cas. Et il y a tout un travail comme ça autour des carnets qui était assez amusant à faire, parce qu'il fallait créer un nouveau style de dessin qui est quand même assez proche de celui que je fais, mais qui est du coup peut-être moins rigide ou qui s'en fout de mal dessiner en tout cas.
Avec ce jeu de défis entre la cantatrice et Ambroise, qui se déroule souvent dans un environnement que je qualifierais de... un petit peu décadent. On nage en pleine ambiance kubrickienne. Est-ce que ça faisait partie de vos influences lors de la création du livre, ou alors est-ce qu'on se fourvoie complètement ?
Non, en fait, je pense que ça fait... En fait, j'adore le travail de Kubrick. Donc, effectivement, ça fait partie des références qui sont plus ou moins inconscientes et qui arrivent une fois qu'on a une idée d'une scène. Après, on se dit « Ah oui, mais ça, peut-être que je l'ai créé parce que j'ai vu tel film ou tel film et tout ça. » Et après, effectivement, comme il y a toute une dimension autour des personnages, des époux, ou Agnello, par exemple, qui sont des personnages assez particuliers de, du récit. Il y a toute une dimension un peu secte complotiste. Enfin, ils sont partout dans les au pouvoir. Ouais. Enfin, il y a tout un truc comme ça.
Il y a du bal masqué aussi, quand même.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, effectivement, c'est des imageries qu'on peut réutiliser.
On a tous été traumatisés par ce bal masqué dans Eyes Wide Shut, quand même.
Je voulais ça le dire.
Un petit peu, ouais.
Moi, je crois que je l'ai vu très petit, genre à peut-être 11 ans, et ça m'a vraiment marqué. J'imagine. J'avais que le souvenir de cette scène.
T'as raison, ouais. Question stupide, mais je la pose quand même. De toute façon, c'est les questions que je préfère. Quand un métamorphe rencontre un autre métamorphe, quelles apparences prennent-ils pour se plaire mutuellement?
Ah,
top 2.
Oui. Non, en fait, je pense que souvent ils se connaissent, mais du coup, il y a un jeu de... Il y a toujours, enfin moi dans mon esprit, il y a toujours une manière fausse de représenter le corps humain, un peu idéalisé, et du coup c'est comme un tic de dessin ou comme des dessins de dessinateurs, on arrive à repérer quelles sont les tics de morphologie que prennent les métamorphes. Par exemple, l'héroïne prend toujours des personnages avec peut-être des sourcils un peu plus arqués, des choses légèrement gothiques dans le visage, qu'elle travaille comme ça sur tous ces personnages comme si c'était des tics de dessin. Et encore ce parallèle du coup avec un dessinateur ou un auteur.
Bien, en attendant, 47 cordes, première partie, c'est édité chez Glénat et vous l'aurez compris, c'est très 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 recommandé par Pop Pop Pop. On va continuer à en parler dans un instant, Timothée. Pour l'instant, Pop Break dans cette émission, c'est l'heure des Pop News.
Et pour ceux qui suivent, j'annonce un gros besoin de mouchoirs. Rien que la bande-annonce peut vous donner la lèvre inférieure qui tremble. Dans le film La Vraie Famille, Mélanie Thierry est Anna, 34 ans, qui vit avec son mari, Ilyes Salem, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l'assistance sociale depuis l'âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Mais voilà.
Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui.
Ça, je m'attendais pas à ça.
Simon est arrivé chez vous quand il avait un an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému.
Ce que je comprends pas, c'est qu'il nous ait même pas consulté, quoi. On compte pas, nous, quoi.
Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman.
Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête.
On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi.
Mais vous plaisantez, là? Non, mais enfin, mais tu restes avec moi, c'est comme ça.
Le père biologique de l'enfant, c'est Félix Moati, qui vient donc compléter le casting de La Vraie Famille. J'ai pleuré en regardant la bande-annonce, ne vous moquez pas de moi. La Vraie Famille de Fabien Gorgeard, ce sera au cinéma le 16 février.
Connaissez-vous les œufs xénomorphes à l'avocat, le schiste Burster Stromboli ou encore la tourte aux cerises aux doigts de Facehugger? Ceux qui savent que dans l'espace personne ne nous entend crier auront reconnu les créatures flippantes et mortelles tirées de l'univers d'Alien et qui donnent désormais leur nom à des plats puisque vient d'être publié le Alien livre de recettes officiel. Un ouvrage dont l'ambition est, je cite, de nous faire suivre le cycle de vie de l'Alien à travers 50 plats inspirés par la célèbre saga cinématographique. C'est signé Chris Rachael Osland et c'est publié chez Inis Éditions.
5 ans que nous n'avions pas entendu de nouveaux titres des rockers brits de Bloc Party. Revoilà donc la bande à Kelle Okereke avec un nouveau titre électrique, Traps. À retrouver sur l'album de Bloc Party Alpha Games qui sortira le 29 avril.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Bocquet.
Alien.
Mais oui, c'est trop facile.
Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, non? Oui, parce que là, il y a une petite confusion avec Jurassic Park, j'ai l'impression.
C'est un petit mélange, ça s'appelle un mashup. Merci Charline, et j'ajoute un petit coup de pouce à un sympathique groupe parisien qui se produit ce soir en showcase au Hasard Ludique. C'est une salle parisienne dans le 18e à 20h. Il s'appelle Silk Skin Lovers et mérite que vous y jetiez une oreille, ça donne ça. Silk Skin Lovers, ce soir donc sur la scène du Hasard Ludique à 20h. Voilà, revenons à nos moutons, même si le terme est mal choisi aujourd'hui, en compagnie de Monsieur Le Boucher. Laissons ces animaux tranquilles et parlons de BD. Aujourd'hui, Timothée Le Boucher, vous êtes venu nous présenter le premier tome de 47 cordes, votre nouvelle BD éditée chez Glénat. 47 cordes, c'est un thriller psychologique plein de références à la pop culture. C'était d'ailleurs des références pop comme David Lynch, Naoki Urasawa, Suihiro Maruo ou Stanley Kubrick dont on parlait il y a quelques instants. Et je sais que lorsque vous avez écrit le scénario de Ces jours qui disparaissent, vous écoutiez en boucle la bande originale de Vertigo. Ça en dit long sur Timothée Le Boucher. Vertigo, Hitchcock, bien sûr. Bernard Herrmann, dans quel univers musical vous êtes-vous replongé en construisant ce thriller psychologique qu'est 47 cordes ?
47 cordes, je pense que bah, quand j'écris, en fait, j'écoute principalement du classique. Donc il y avait, oui, Daphnis et Chloé de Ravel, enfin beaucoup de musiques de Ravel. Et après, il y a des musiques qui sont directement citées dedans, comme Chopin. Ou ce genre de musique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de musique classique pendant l'écriture et après pendant la réalisation, là j'écoute de la musique, mais je regarde plutôt des films, des séries. Enfin, je peux dessiner en regardant, donc c'est assez cool.
Vous pouvez faire plein de choses en même temps, quoi.
Oui.
Ouais, puis beaucoup de classiques, parce que le personnage principal est harpiste.
Et harpiste,
ça doit aider, j'imagine. Mais de quel genre d'ambiance hors musique vous avez besoin, pour travailler?
Scénario, du coup, vraiment musique sans parole. Et par contre, le dessin, je peux parler, être avec des amis, regarder des films, des séries. Enfin, vraiment, j'ai moins besoin de concentration à cette période-là.
Votre univers, Timothée Le Boucher, est extrêmement original, poétique, troublant, fantasmé. Est-ce que votre manière très particulière de dessiner qui définit cet univers, ou bien est-ce que vous l'aviez en tête avant même de prendre le crayon? En gros, est-ce que c'est l'œuf ou la poule?
Ah oui, je pense que j'ai essayé de concevoir un dessin qui permet de raconter quand même pas mal de possibilités de récit. Après, effectivement, je pense que mon dessin s'adapte légèrement en fonction du ton, de la tonalité du récit. Ouais. Ou par exemple, s'il y aura un récit plus sombre, il y aura plus de noir dans les traits, enfin, vraiment un dessin qui peut s'adapter du coup plus ou moins. Après, il y a toujours un côté un peu jeunesse, je pense, dans mon dessin, qui fait qu'on s'attend pas forcément à avoir des histoires aussi sombres. Mm-hmm. Et je trouve ça intéressant d'en jouer aussi et de surprendre peut-être quand les gens connaissent pas trop.
Ambroise est un héros étrange, tout comme les personnages qui l'entourent, sa sœur, les amis de sa sœur, musiciens, tous sont assez troublants et mystérieux, et d'un abord que je qualifierais de compliqué. On sent un certain plaisir du créateur à faire évoluer, à creuser certains d'entre eux. Je pense à la partie de l'orchestre qu'intègre Ambroise, baptisée les Quotas.
Oui. Oui, en fait, le groupe, Ambroise intègre l'orchestre philharmonique pour 6 mois en remplacement, et à la fin, il aura potentiellement une chance de rentrer définitivement dans l'orchestre, sachant qu'il a 30 ans, que c'est un peu genre sa dernière chance de pouvoir rentrer dans un orchestre, et il est dans le groupe de sa sœur qui est percussionniste dans l'orchestre. Et en fait, c'est un groupe qui se qualifie eux-mêmes de quota, comme s'ils sont en marge de l'orchestre, et avec leurs grands rivaux qui sont les Zodiacs, qui eux représentent plutôt un orchestre un groupe d'orchestre un peu plutôt classique, et du coup il y a un peu des rivalités comme ça et plein d'histoires au sein de l'orchestre qui du coup ne paraissent, je pense, dans la première partie pas forcément cohérentes, mais s'inscrire vraiment avec le reste, mais qui du coup prépare quelque chose qui va arriver dans le tome 2.
Dans le tome 2.
Ambroise est musicien, il dessine, il lit aussi, c'est un lecteur de shonen, soit en version très très abrégée, une catégorie de manga destinée à un lectorat jeune et mâle. Qu'est-ce que ça raconte de lui?
Oui, ben en fait, Ambroise a été éduqué, donc sa mère est décédée et son père a essayé de l'éduquer avec sa sœur en enfant prodige, donc il l'a inscrit à des cours de musique, de dessin, de littérature, et au bout d'un moment, il lui a dit, mais en fait, Ambroise était vraiment passionné par les trois, et il lui a dit, si tu veux être brillant quelque part, tu dois abandonner deux passions pour en garder qu'une seule, et finalement, Ambroise a gardé la musique. C'était pas forcément la passion dans laquelle il était le plus fort, mais comme il était en rivalité avec sa sœur, il y a toute une dimension comme ça de on lui a dit comment il devait venir et il doit se calquer à ce moule, et petit à petit, en fait, il va essayer de se sortir de cette condition.
Mais ce culte de l'amitié, c'est lié à la lecture de Shonen?
Oui,
il a vraiment une vision. Parce qu'il entretient vraiment ça, en fait.
Oui, avec du coup Thomas, son meilleur ami, qui est du coup un personnage de la Métamorphe. Ils ont une amitié très shonen liée aux rivalités. Et pareil, l'histoire des défis autour des 47 cordes, c'est vraiment très shonen aussi. Et en fait, la Métamorphe a compris qu'il fonctionnait comme ça et du coup utilise ces défis pour le posséder, en fait.
Timothée Leboucher, je crois savoir que vous êtes actuellement en train d'écrire. Enfin, vous êtes actuellement en train de parler, là.
Pas actuellement. Ouais,
actuellement. Oui, mais ça veut dire que l'écriture de cette seconde partie est en cours.
Oui.
Qu'elle sera aussi copieuse que la première, parce que je rappelle quand même que le livre fait combien?
À peu près 300, 375 pages.
Voilà. Effectivement, peut-être pour être tout à fait précis.
Oui, oui. J'ai un problème avec l'estimation de pagination, où à chaque fois, j'estime par exemple, le patient qui fait 300 planches, j'avais estimé à 120 planches au départ, donc je crois que c'est un truc...
On va pas s'en plaindre.
Non. Mais il faut que je fasse attention. Mais effectivement, elle fera à peu près le même nombre de pages et je suis en train d'écrire et de faire attention à ce que ça soit quand même cohérent dans la bibliothèque pour que les deux livres se ressemblent sans sacrifier l'histoire.
S'il vous plaît, oui, je compte beaucoup sur vous. 47 cordes, première partie, c'est donc édité chez Glénat, c'est bien signé Timothée Leboucher et je le rappelle, c'est chaudement recommandé par Pop. Timothée, dans la suite de Pop, nous parlerons de...
We are living in a miraculous time.
You're gonna let me in.
I will fight the man who pretends the hand of Nora Brady.
De Kubrick, encore et toujours, de l'artiste nigérian Sike, de la série Sermon de minuit et de Pop Culture. Tout ça, ce sera juste après Nouvelle-Orléans. C'est un morceau signé La Femme.
Thank you.
Nouvelle-Orléans, c'était la femme, extrait du dernier album Paradigme, et ça groove bien. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ce son, c'est le générique de la trilogie du samedi sur M6, et c'est ce qui vous évoque la pop culture. Timothée Leboucher, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Bah moi, c'est comme ça que j'ai particulièrement découvert, quand j'étais petit, je pense que je devais avoir une dizaine d'années, j'ai vraiment découvert l'univers des séries, par exemple. Mm-hmm. Et je crois que dans mes souvenirs, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à essayer d'analyser les personnages, les récits, les arcs narratifs, et où j'ai eu un déclic comme ça. Par exemple dans Buffy, par exemple, qui me fascinait petit, et c'est vraiment là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un auteur qui écrivait tout ça et qui dialoguait et essayait de décortiquer un peu.
À analyser.
Oui.
Vous étiez très précoce quand même.
Non, je pense que c'est un truc qu'on fait plus ou moins consciemment.
Ah oui.
Mais vraiment avec Buffy pour le coup.
Ah oui, Buffy, c'est vraiment. Ouais. D'ailleurs, je comprenais pas. Je croyais que c'était un film, et je comprenais pas pourquoi la semaine d'après ça revenait. Parce que je connaissais pas trop le concept de série, je crois.
Je vais vous expliquer ça dans un instant. Restons dans votre univers pop avec votre popliste, Timothée. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. En ce moment, le livre qui se trouve sur votre table de chevet, c'est celui d'Edouard Louis, Changer méthode. Charline, résumé maintenant.
Quelle surprise ! Un éloge de la transformation. Mais ça alors, un petit manuel du comment s'arracher à sa classe de naissance.
Mm-hmm. Timothée Leboucher, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
J'allais devenir étudiant. Le mot étudiant me coupait radicalement de toi et de notre monde. Dans le visage, quelqu'un qui disait « je suis étudiant à l'université » était comme quelqu'un qui disait « ma maison de campagne » ou « ma femme de ménage ». Comme une expression qui marquait une frontière nette, définitive, infranchissable. Et je passais de l'autre côté de cette frontière.
Extrait du livre d'Edouard Louis, « Changer méthode », le choix de Timothée Leboucher. Alors, changer méthode, pourquoi ? Réponse.
Oui, en fait, je crois que il y a vraiment un sujet qui m'intéresse sur la reproduction sociale, sur le changement de classe, et c'est des choses que j'ai plus ou moins vécu aussi à des moments, ne serait-ce qu'en allant aux Beaux-Arts, où d'un coup j'avais une culture qui était quand même très populaire, et j'ai senti que pour rester aux Beaux-Arts, il fallait que je change, que je m'ouvre un peu, et que je découvre plein de choses plein de récits dont j'avais pas forcément accès au départ, et du coup il y a plein de choses qui me parlent et qui sont intéressantes. Et pareil, dans le patient, ça parle aussi un peu de reproduction sociale à certains égards.
Parfait. Pour la suite, je vous plonge dans une ambiance kubrickienne, car vous avez choisi Barry Lyndon comme film. C'est un film de 75. Alors Charline, on s'attendait à Eyes Wide Shut, dont nous parlions tout à l'heure, mais décidément, Timothée n'est jamais là où on l'attend. Changeons d'époque donc.
Oui, puisque le film s'attache au parcours de Redmond Barry, né en Irlande au 18e, tour à tour soldat dans l'armée britannique, puis dans l'armée prussienne, roublard tricheur qui réussira à épouser la comtesse de Lyndon.
I will fight the man who pretends the hand of Nora Brady. I'll follow him if it's into the church. I'll have his blood. No, he'll have mine.
Ah, avec cette fameuse sarabande de Handel qui m'a rendu littéralement dingue à l'époque. Je continue à écouter d'ailleurs. C'est un film de 75. Nous avons un plaisir toujours fou à regarder en 2021, donc. Ça va pour vous.
Mais en fait, moi, c'était une découverte parce que quand j'aime bien un auteur ou un réalisateur, en fait, j'essaye de pas tout voir et de me garder toujours des choses à découvrir plus tard, parce qu'en fait, je trouve ça triste d'avoir tout vu, toute une filmographie, et de plus rien découvrir après. Et effectivement, de manière ponctuelle, je m'autorise à regarder, par exemple, les Kubrick que j'ai pas vus, ou certains autres films, et tout ça. Et là, c'était un peu la récompense pour 47 cordes. En fait, je l'ai vu il y a peut-être 4 jours, et je l'ai découvert il y a 4 jours, en fait. Et du coup, alors, c'était
attendez, que je comprenne bien votre démarche. Vous savez qu'il y a ce film de Kubrick qui existe, mais... Vous dites, je le verrai quand je l'aurai mérité d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. C'est pour toujours avoir des choses à découvrir, parce que peut-être regarder trop de films d'un auteur va trop me saturer. Et du coup, je préfère avoir vraiment une espèce d'attente comme ça qui arrive. Même si, bon, au bout d'un moment, il y a plein de réalisateurs dont j'ai vu un peu tous les films, mais j'essaye de faire attention à garder comme ça des découvertes.
Vous avez vu tous les Kubrick ?
Il m'en manque encore un.
Lequel ?
Je sais plus son nom. Celui sur la bombe atomique.
Ah, Docteur Folamour ?
Oui, je l'ai pas vu encore.
Pas le pire. C'est pas le pire. Bon, restons en 2021 avec votre série du moment. Cette série, c'est Sermon de minuit. C'est disponible sur Netflix. Alors, Charline, il n'y a pas d'heure pour un bon sermon, bien sûr. Mais enfin, minuit, moi, je préfère les bains quand même, non?
Simon Restat, notre attaché de production, nous a demandé si cette série vous emmenait jusqu'au bout de la nuit. Je le dis, j'avais dit que je le balancerais. Un mystérieux prêtre arrive au sein d'une communauté et celle-ci de faire face à des événements tout aussi miraculeux que flippants. Something's happening.
A miraculous time. You're gonna let me in. You're gonna let me in. I think I'm crazy. I mean, what's a little crazy between friends, right?
Sermon de minuit, la série sur Netflix qui est le choix de Timothée Le Boucher. Alors, attendez, ce qu'on va faire Timothée, c'est qu'on va commencer par répondre à Simon Restat, notre attaché de production, qui veut savoir donc si les démons de minuit vous entraînent jusqu'au bout de la nuit. Oui ou non?
Oui, à la fois la musique et à la fois la série, parce que je l'ai regardé jusqu'à tard. Oui.
D'accord. Mais, changement quand même de programme en cours de route. Vous me dites tout à l'heure, bon, ça, finalement, elle me plaît pas tant que ça, cette série.
Non, mais en fait, j'ai commencé à regarder l'épisode 1 et j'étais assez convaincu. Enfin, j'avais l'impression que j'allais aimer, parce qu'en fait, j'ai déjà vu d'autres séries de Mike Flanagan, je crois, c'est
ouais.
ça.
Ouais, Haunting of Hill House.
Ouais, notamment, que j'avais adoré. Enfin, pas jusqu'au bout, mais que j'avais adoré en partie, et il y avait surtout des beaux moments de réalisation, d'écriture, de dialogue. Et effectivement, donc j'étais parti sur un a priori positif, et j'étais assez déçu de cette série finalement.
Alors, Sermon de minuit, en fait, c'est tout pourri. Timothée Le Boucher, votre chanson du moment, c'est Love Nwantiti de l'artiste nigérian Sike, mais en version acoustique, insistez-vous.
C'est un morceau... J'ai un peu honte, j'avoue. Mais
aucune raison d'avoir honte, parce que c'est un morceau qui fait un véritable carton sur TikTok.
Ouais, je l'ai découvert sur TikTok.
Dans sa version remixée qui donne ça. Vous avez une chorégraphie particulière sur TikTok
Non, mais je me souviens de soirées avec des amis où on dansait sur cette chanson. Ouais.
Vous dansiez comment?
Il vaut mieux pas le décrire.
Comment ça?
Trop de coups de bassin.
Trop de coups de bassin. Ah ouais, c'est pas en fait quelque chose. Bon, vous, Timothée Le Boucher, vous préférez la version acoustique du morceau. C'est une version que je vous propose d'écouter tout de suite. Baby, my Valentine, yo. Can I hear them making my temperature rise? If you leave me, I could die, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Your love ain't torturing me, I am so obsessed. I want to chop your kwabi, ule. Yabadi de makamishi, ule. Apuna meka isi, ule. Yama love wants it. I don't care what they said, cause your matter. Now you my one they carry for my head. Every night, now you are one they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You could be my partner, never riding solo, no. How we can do, I'm looking, no need to worry, oh. I feel like what you're doing, oh, yeah, baby, carry go, ooh, le. Yeah, body, never carry, she, le. Upon a make, I see, ooh, le. Now you ain't a catch a fancy. They do me, I keep parking, oh, no, no, no. Should I be coming early in the morning? Oh yeah, she can make you send my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you loving, I go take you to my city, city. Loneliness, they make a look of pity. You want me can sing Joromi before you go see me, see me. Fine, yeah, you know your body bad.
same body pan, can make you shaky for Ghana. Kia kia dance for me, baby pan. Come and give me show, no, no, no.
Comment faire plaisir à Timothée Le Boucher ? Ben, très simplement, en lui passant cette chanson de Sigué, Love No Entity, dans sa version acoustique. Pourquoi est-ce qu'elle vous plaît tellement ?
En fait, j'aime, c'est horrible, mais genre, je crois que j'ai un genre de crush sur cette chanson où j'aime un peu toutes les versions, peu importe. Mm-hmm. Et je pense que c'est un peu un plaisir coupable aussi, mais cette chanson-là en version acoustique a le don de m'hypnotiser et du coup de me permettre d'écrire hyper bien. Mm-hmm. Et je pense quand on trouve une musique comme ça qui nous permet d'écrire... je mets des playlists de une heure, enfin la chanson en boucle pendant une heure, et du coup là je sais que j'ai une heure et j'écris super bien pendant cette chanson, donc tant qu'elle marche, je vais la garder.
Alors vous pourriez aussi, ben on en parlait hier avec Pénélope Bagieux, écouter des podcasts par exemple en travaillant. Ah oui. Ça vous arrive de faire ça?
Oui, j'écoute beaucoup de podcasts et.
Est-ce que vous en avez un à nous recommander en particulier?
Mon podcast du moment que j'ai découvert, c'est La Vignette, donc qui interview des auteurs de bande dessinée et qui leur laisse quand même beaucoup de temps pour parler. Et c'est hyper intéressant parce que ça intéresse à la découverte de la bande dessinée, à leur parcours. Et on peut vraiment, ça permet d'approfondir sur tout leur parcours et je trouve ça super intéressant.
La Vignette.
Oui, La Vignette.
Ok, on va aller écouter ça. Charline est déjà en train de tapoter.
Je suis déjà en train de télécharger. Ah bah
oui, bien sûr. Bon, 47 cordes, c'est sorti chez Glénat. C'est la première partie seulement, même si c'est un gros livre qui fait 378 pages. Vous voyez à quel point je suis précis. C'est chez Glénat, c'est de Timothée Le Boucher et c'est un truc absolument étonnant.
Ouais, on peut redire que c'est formidable.
Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, non?
On peut le redire encore.
Bah, c'est pas la peine de dire qu'on peut le redire puisqu'on encore, est en train de le faire. Enfin, Charline, vraiment. Oh là là. Bon. Ok, c'est disponible. Merci, merci Charline. Merci Timothée de nous avoir rendu visite et continuez. On attend impatiemment la suite. C'est moi qui vous le dis.
Et hop au boulot.
Et merci à toute l'équipe de Pop et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Valérie Donzelli vient nous rendre visite. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.